Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
18 janvier 1871. Dans la galerie des glaces du palais de Versailles, une cérémonie d'une grande importance est sur le point de commencer. Des militaires et des dignitaires politiques sont tous assemblés dans la vaste galerie. Devant eux, un dais sur lequel se tient Guillaume Ier, le roi de Prusse, entouré de différents princes allemands. Devant lui, à la tête de la foule, le ministre-président prussien Otto von Bismarck lit la déclaration suivante. « Nous assumons la dignité impériale en étant conscients du devoir de protéger les droits du Reich et de ses membres dans la loyauté allemande, de préserver la paix et de défendre l'indépendance de l'Allemagne sur la base de la force unie de son peuple. Nous acceptons, dans l'espoir que le peuple allemand obtiendra la récompense de sa lutte acharnée et dévouée dans une paix permanente et à l'intérieur des frontières qui fournissent à la patrie la protection qui lui a manqué pendant des siècles contre de nouvelles attaques de la France. Mais que Dieu nous accorde, ainsi qu'à nos successeurs sur le trône impérial, de toujours représenter la plus grande partie de l'Empire allemand, non pas en conquête militaire, mais en bien et don de paix dans le domaine du bien-être national, de la liberté et de l'ordre. » La salle acclame alors le nouvel empereur. L'Empire allemand venait d'être proclamé et pour la première fois, l'Allemagne était véritablement unie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode pilote de « Par le fer et le sang ». Je suis Benjamin Lacombe et je serai votre guide tout au long de cette série. La proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871 à Versailles, en pleine guerre franco-allemande, est l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour l'unification de l'Allemagne. Il s'agit également de l'aboutissement d'un rêve. Un rêve national porté par des hommes et des femmes, et pour lequel plusieurs vont y laisser leur vie. Comment l'Allemagne, qui, au début du 19e siècle, n'était qu'une grande mosaïque d'États au sein d'un empire morcelé, a-t-elle réussi à être unifiée? Comment l'idée d'une nation allemande est-elle apparue? Pourquoi c'est autour de la Prusse que l'Allemagne s'est unifiée? Pourquoi pas autour de l'Autriche? Cette série de balados a pour but de vous présenter le long processus d'unification de l'Allemagne au 19e siècle. Au cours de cette série, l'accent sera mis sur la place de l'Autriche et de la Prusse, et principalement de la Prusse, dans le processus d'unification, mais nous discuterons aussi du rôle des autres États allemands. Vous trouverez dans la description de chaque épisode mes sources et des ouvrages portant sur les sujets abordés, ainsi que des images, des illustrations et des cartes. Avant le 19e siècle, l'idée d'une Allemagne unie ne semblait peu importante, voire inexistante. Pourquoi? Dans cet épisode pilote, nous tenterons de définir ce qu'est l'Allemagne à l'aube du 19e siècle. Nous verrons un peu l'histoire de l'Allemagne en partant des tribus germaniques jusqu'à la fin du 18e siècle. Nous introduirons également deux protagonistes dont l'importance dans notre récit est indéniable, l'Autriche et la Prusse. Qu'est-ce que l'Allemagne? Cette question peut sembler anodine et les multiples réponses que l'on peut dégager tout autant. Pourtant, la définition de ce qu'est l'Allemagne a beaucoup changé au fil des siècles. Les noms que l'on donne à l'Allemagne offrent différents points de vue. En français, le terme « Allemagne » vient du terme latin « Alemannia », signifiant « pays des Alamans ». Ces Alamans, c'est un ensemble de tribus sud-germaniques qui habitait ce qui est aujourd'hui l'Alsace en France. Le terme allemand « Deutschland » ou « terre des Allemands », quant à lui, vient du vieux haut allemand « Diotisk » signifiant simplement « peuple ». Les premières mentions de l'Allemagne, entre guillemets, ne surviennent qu'avec l'apparition du terme latin « Germania », signifiant « terre des Germains » au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le premier à employer le terme est Jules César dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules », dans lesquels il mentionne quatre tribus belges du nord-est de la Gaule, c'est-à-dire la Gallica Belgica, connues collectivement comme « Germani ». En 98, Tacite publie « La Germanie », un traité d'ethnographie portant sur les tribus germaniques vivant à l'extérieur de l'Empire romain. Les Romains vont tenter de conquérir la Germanie autour du 1er siècle, après Jésus-Christ, réussissant à s'établir sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire du côté allemand du Rhin. Toutefois, en tentant de progresser plus loin, les forces romaines sont vaincues à la bataille de la forêt de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ. C'est ici que nous commencerons notre périple. Ces Germains, qui sont-ils? Les Germains sont un ensemble de peuples et de tribus établis dans le nord de l'Allemagne actuelle. Certains de ces peuples, dont les Francs et les Saxons par exemple, s'établiront au-delà de l'actuelle Allemagne et formeront le nucléus de d'autres nations européennes comme la France et l'Angleterre. La défaite romaine à Teutobourg en l'an 9 est un événement important dans l'histoire de l'Europe puisqu'elle empêche la romanisation des peuples germaniques outre-Rhin. Ils s'établissent alors le long des frontières de l'Empire romain et certaines tribus entretiennent même de bonnes relations avec Rome. À la fin du 4e siècle, l'arrivée des Huns, peuple nomade des steppes d'Asie centrale, provoque une importante vague de migration des tribus germaniques vers l'Empire romain. C'est le début des invasions barbares. Rapidement, des tribus forment leur propre royaume et déstabilisent un empire déjà sur son dernier souffle. Des ententes sont faites entre Rome et ses royaumes, leur octroyant le titre de peuple fédéré. Toutefois, l'arrivée des Vandales et des Suèves en 406, ainsi que le sac de Rome en 410, sonne le glas de l'Empire romain. Suite à de nombreuses invasions et pertes territoriales, l'Empire romain d'Occident prend fin en 476 après la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, par un roi germanique nommé Odoacre. L'Europe est désormais divisée en plusieurs royaumes germaniques. L'un d'eux, le royaume des Francs, sera important pour la suite des choses. Le royaume des Francs est d'abord établi dans ce qui est aujourd'hui la Belgique, alors au sein de la Gaule, en 420. Au départ divisé entre Francs saliens et Francs rhénans, le royaume est finalement unifié en 481 par le roi Clovis Ier, qui entreprend la conquête de la Gaule. À la mort de Clovis en 511, le royaume s'étend de la frontière avec l'Espagne jusqu'en Thuringe, en Allemagne actuelle. De plus, à sa mort, le royaume est partagé entre ses fils. C'est le début de la période dite mérovingienne. À partir de 750, c'est une autre dynastie, les Carolingiens, qui prennent le pouvoir. Au cours du règne de Charlemagne, le royaume s'étend vers l'est, en conquérant la Bavière entre 788 et 794 et la Basse-Saxe en 804. À l'instigation du pape Léon III, Charlemagne est couronné empereur des Francs et des Romains en l'an 800. Transformant le royaume en un empire se voulant le successeur de Rome. À ce moment-là, le territoire de l'empire de Charlemagne couvrait la majorité de la France actuelle et l'ouest de l'Allemagne. Après la mort de celui-ci en 814, l'empire demeure uni, du moins jusqu'à la mort de son fils Louis le Pieux. Ses fils entrent en conflit au sujet de la continuation de la pratique du partage équitable des terres et de l'introduction du droit de primogéniture. Et l'Empire est alors divisé en trois lors du partage de Verdun en 843. L'un des fils de Louis le Pieux, Louis le Germanique, obtient la Francie orientale, c'est-à-dire les territoires allemands de l'Empire, qui prendra alors le nom de Germanie. S'ensuit alors une longue période de conflits armés qui culmine en l'an 911 à l'éviction de la dynastie carolingienne du trône de la Germanie. En 924, l'Empire carolingien cesse véritablement d'exister. En 919, Henri l'Oiseleur devient le roi de Germanie. Il étend les frontières du royaume jusqu'à l'Elbe, un fleuve dans l'est de l'Allemagne. Il remporte d'importantes victoires contre les Slaves, les Danois et les Magyars. Ces derniers seront définitivement vaincus par son fils, Othon Ier. Celui-ci devient empereur en 962 et il promulgue le Privilegium Othonianum, lui donnant alors le contrôle sur la nomination des papes à Rome. Finalement, il fonde un empire qui perdurera pendant près de 900 ans, le Saint-Empire romain germanique. L'Empire d'Othon grandit tout au long de son règne. Il s'étend d'ouest en est, de la Francie orientale jusqu'à l'actuel Brandebourg, et il s'étend également en Italie. Sous le règne de la dynastie ottonienne, on commence à voir apparaître le territoire de la future Allemagne. Après la mort d'Henri II, dernier roi de la dynastie ottonienne en 1024, une nouvelle dynastie s'installe sur le trône de Germanie, les Franconiens. Conrad II, premier roi de la dynastie, impose sa souveraineté en Pologne et en Tchéquie et ajoute la Bourgogne au territoire du royaume. Son fils, Henri III, maintient l'autorité impériale dans tous les États de l'Empire. Tout semble bien aller. Cependant, après sa mort, son fils, Henri IV, entre en conflit avec la papauté, menant ce qui sera nommé la querelle des investitures. Profitant de la situation, plusieurs seigneurs se rebellent contre l'empereur, ce qui menace les fondations de l'Empire. Finalement, en 1122, Henri IV accepte la libre élection des évêques dans le cadre du concordat de Worms. Non seulement ne peut-il plus compter sur la fidélité des évêques, mais il ne peut plus compter sur l'appui des seigneurs et des princes au sein de l'Empire. Quand Henri IV meurt, ceux-ci refusent même d'élire son fils, Frédéric Roger. Mais grâce à l'appui du pape Innocent III, il est finalement élu. Bien qu'il réussisse à asseoir son pouvoir de manière efficace, le règne de Frédéric II et de son fils Henri vont enclencher un long processus de désagrégation du pouvoir impérial. Pendant le règne de Frédéric II, c'est son fils qui s'occupe de la gestion du pouvoir en Allemagne alors que son père est en Italie, et il accorde au prince séculier l'hérédité des fiefs. À partir de ce moment, les terres de l'Empire seront de facto pratiquement indépendante du pouvoir impérial. Mais c'est avec la mort de Frédéric II que les choses basculent. En effet, à partir de 1250, aucun empereur n'est élu pendant près de 23 ans, privant l'Empire d'un pouvoir central fort. Rapidement, l'Empire se morcelle en centaines de villes libres et de principautés qui sont, de facto, indépendantes du pouvoir impérial. Le niveau d'indépendance des princes est hallucinant. Avec la « chute » entre guillemets du tribunal d'Empire, les princes s'emparent de tous les droits régaliens. Ils organisent leur propre cour, leur propre administration et même leur propre force militaire. De plus, le territoire de l'Empire commence de plus en plus à se restreindre au territoire de l'Allemagne. Au cours de cette période, et même après la fin de cette période que l'on nomme l'interrègne, on voit apparaître de nouvelles principautés dans l'est et le centre de l'Allemagne, dirigées par de nouvelles familles. Le Saint-Empire romain germanique se transforme alors en une fédération d'États princiers « indépendants » entre guillemets, qui n'ont qu'un lien très lâche avec le pouvoir central. Pendant l'interrègne qui suit la mort de Frédéric II, l'anarchie et l'insécurité règnent en Allemagne. Le pape menace les électeurs de nommer un empereur lui-même s'ils n'y parviennent pas eux-mêmes. Finalement, en 1273, ils élisent Rodolphe de Habsbourg, qui prend rapidement possession de la marche d'Autriche. De plus, le droit d'élection est restreint à un petit nombre de princes électeurs, et ce petit nombre sera réduit à 7 avec la bulle d'or de 1356. La majorité d'entre eux sont allemands, à l'exception du roi de Bohême, qui gouverne sur ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Parmi eux, on retrouve un personnage qui gouverne un territoire qui sera bien important plus tard, le margrave de Brandebourg. Nous y reviendrons. Au fil du temps, le Saint-Empire prend un caractère de plus en plus germanique et le pape ne se mêle plus de l'élection de l'empereur. Au 15e siècle, les Habsbourg prendront finalement le trône de l'Empire avec l'élection de Frédéric V d'Autriche en 1452. Les Habsbourg régneront sur le Saint-Empire jusqu'à sa chute en 1806. Bon, prenons une petite pause de notre voyage chronologique pour s'intéresser à l'Autriche et à la Prusse. Entre le 10e et le 13e siècle, les frontières de l'Allemagne s'étendent vers l'est et le sud. Au sud, c'est depuis l'époque de Charlemagne que l'on commence à coloniser la région. Mais, avec l'arrivée des Hongrois, on doit toutefois abandonner les territoires conquis. C'est seulement au règne d'Othon Ier que la région est reconquise et est alors colonisée par de grandes familles bavaroises et rhénanes. On utilise pour la première fois le terme « Ostariki » pour désigner ces territoires à partir de 996. Pour ceux qui parlent allemand parmi vous, vous aurez sûrement remarqué la ressemblance entre ce terme et le nom allemand de l'Autriche, Österreich. C'est d'ailleurs la forme latinisée de Ostariki, Austria, qui est à l'origine du terme Autriche en français. De grands domaines se constituent autour de ce qui allait devenir les villes de Salzbourg, Freising et Passau. Et, au fil du temps, d'autres villes comme Linz, Innsbruck et Graz se développent. En 1002, une forteresse est bâtie non loin des ruines de la cité romaine de Vindobona, qui deviendra plus tard Vienne. À partir de 976, la famille des Babensberg dirige l'Ostariki, qui prend le nom de Marche d'Autriche. Pendant leurs multiples règnes, le territoire de l'Autriche s'agrandit. En 1105, Léopold III, le margrave de l'Autriche, épouse la fille de l'empereur Henri IV, ce qui fera de lui un candidat possible au titre d'empereur en 1125, mais il ne sera jamais élu. Après sa mort en 1136, son fils Henri II décide de s'installer à Vienne et commence à développer la ville. Pendant son règne, un conflit débute entre les Babenberg et la famille régnante de Bavière et de Saxe, les Welfs. Le beau-frère d'Henri II, l'empereur Conrad III, lui donne la Bavière. Cependant, dû à la mauvaise gestion de la Bavière par les Babenberg, son successeur, Frédéric Barberousse, redonne la Bavière aux Welfs. Pour éviter la rancune des Babenberg, il élève l'Autriche au rang de duché en 1156. Le territoire du nouveau duché s'agrandit en 1192, avec la prise de la Styrie, une région à l'est de l'Autriche actuelle. Entre 1236 et 1240, un conflit éclate entre l'empereur du Saint-Empire, Frédéric II, et le duc d'Autriche, Frédéric II. Bon, je sais, les deux ont le même nom. Pour les différencier, je vais appeler l'empereur Frédéric II simplement Fred et le duc d'Autriche, Freddy. Ça vous va? Parfait. Fred, à cause des nombreux conflits que Freddy a avec ses voisins depuis 1230, souhaite prendre l'Autriche sous sa tutelle. Il commence d'abord par retirer aux Babenberg leurs droits ducaux, puis il se rend à Vienne où il obtient le soutien de la population. Freddy décide de se retirer à Wiener Neustadt, à 50 km au sud de Vienne. À partir de 1239, Freddy reprend le contrôle sur l'Autriche, à l'exception de Vienne, qu'il commence à assiéger. Finalement, en 1240, il reprend la ville, il redevient duc d'Autriche. Quand Freddy meurt en 1246, au cours d'une bataille contre les Hongrois, il n'a cependant aucun héritier mâle. De ce fait, en 1251, le roi de Bohême, Ottokar II, devient le duc d'Autriche. Toutefois, la Styrie tombe aux mains des Hongrois. C'est la fin des Babenberg. La Styrie ne tardera pas toutefois à tomber sous le giron d'Ottokar. Cependant, son règne en tant que duc d'Autriche sera de courte durée. car en 1276, le nouvel empereur Rodolphe d'Habsbourg, soutenu par plusieurs en Autriche et en Styrie, décide d'entrer en guerre contre lui pour le chasser du pouvoir. Après 2 ans de combat, en 1278, les Habsbourg prennent possession de l'Autriche. Malgré des débuts difficiles, les Habsbourg vont asseoir leur pouvoir sur l'Autriche et ils vont régner sur celle-ci jusqu'en 1918. Tournons-nous maintenant vers le nord-est de l'Allemagne et le reste de l'Europe centrale. Déjà, au règne de Charlemagne et d'Othon Ier, on avait entamé la colonisation des territoires à l'est de la Germanie. Toutefois, cette poussée vers l'est, communément appelée en allemand « Drang nach Osten », cesse pendant le règne de la dynastie franconienne. Elle reprendra seulement au 12e siècle. À cette époque, plusieurs peuples slaves païens habitaient le nord-est de l'Europe jusqu'aux pays baltes, ainsi que dans l'est de l'Allemagne actuelle. De plus, après la fin de la première vague de colonisation, de nouveaux royaumes, dont la Pologne, se sont constitués. La nouvelle vague d'expansion dans le nord-est de l'Allemagne actuelle commence au 12e siècle. À partir de 1147, on lance ce qui sera appelé les Croisades du Nord dans le but de conquérir les territoires à l'est et de christianiser les peuples qui y habitent. Les Wendes, peuples slaves habitant le nord-est et l'est de l'Allemagne actuelle, sont incapables de résister et sont forcés de se convertir au christianisme. Les campagnes les plus importantes de ces croisades furent toutefois les campagnes de Prusse et de Livonie. Au début du 13e siècle, le duc de Massovie, Conrad Ier, tente de conquérir la Prusse, région habitée par un peuple slave nommé les Prussiens. Mais celui-ci n'y arrive pas. Il demande alors l'aide d'un ordre militaire chrétien, les Chevaliers Teutoniques. Fondés pendant les croisades en Terre Sainte, les Chevaliers Teutoniques répondent à l'appel. En 1234, commandés par leur grand maître, Hermann von Salza, ils lancent une importante campagne contre les Prussiens qu'ils finiront par vaincre et subjuguer. Rapidement, les Chevaliers Teutoniques vont s'installer dans la région et ils vont même former leur propre État aux dépens de leurs voisins, contre qui ils vont mener des campagnes de conquête territoriale qui vont agrandir le nouvel État. En 1410, les armées polono-lituaniennes vont décisivement défaire l'ordre à la bataille de Grunwald, enclenchant ainsi la chute de l'ordre. Une importante rébellion au sein des territoires de l'ordre teutonique entre 1454 et 1466 va mener à la perte de la Prusse occidentale qui sera cédée à la Pologne. Après avoir été vaincu de nouveau par la Pologne en 1525, le grand maître de l'ordre, Albert Ier de Hohenzollern, quitte ses fonctions et le roi de Pologne, Sigismond Ier, le nomme duc du duché de Prusse, un état vassal du royaume de Pologne avec pour capitale la ville de Königsberg. Albert se convertit au luthéranisme et sécularise les anciennes terres de l'ordre teutonique. Les Hohenzollern s'implantent de plus en plus dans le paysage de l'est de l'Allemagne. Mais qui sont-ils? Les premières mentions de la maison de Hohenzollern remontent au 11e siècle. À l'époque, la famille régnait sur le comté de Zollern dans l'actuel état de Bade-Württemberg et, à partir de 1192, sur le bourgraviat de Nuremberg. La famille est divisée en deux branches. La branche aînée, souabe et catholique, et la branche cadette, franconienne, protestante. C'est cette dernière qui nous intéresse. Au cours des 12e et 15e siècles, les Hohenzollern vont soutenir les empereurs du Saint-Empire romain germanique, qui vont alors leur octroyer plusieurs privilèges et concessions territoriales. En 1415, Frédéric de Hohenzollern acquiert la marche de Brandebourg, dans l'est de l'Allemagne. En acquérant le Brandebourg, les Hohenzollern obtiennent bien plus qu'un lopin de terre. En effet, avec la bulle d'or de 1356, les margraves de Brandebourg devinrent des princes électeurs, leur donnant un poids énorme au sein de l'Empire. Ainsi, les Hohenzollern deviennent un acteur important dans la politique impériale. De plus, Comme mentionné précédemment, les Hohenzollern vont acquérir le duché de Prusse en 1525 grâce à Albert Ier. Le duc Albert Ier meurt en 1568 et est succédé par son fils, Albert-Frédéric de Prusse. Sa fille aînée, Anne, par ailleurs, il n'a eu que des filles, se marie à son cousin Jean III Sigismond de Brandebourg, qui est lui aussi un Hohenzollern, en 1594. À la mort d'Albert-Frédéric en 1618, Jean Sigismond reçoit le droit de succession du duché par le roi de Pologne et il devient donc duc de Prusse. À partir de ce moment, les Hohenzollern règnent sur le Brandebourg et la Prusse en union personnelle. Toutefois, les Hohenzollern n'auront pas le temps de célébrer, car l'Europe sera mise à feu et à sang avec le début de la guerre de 30 ans la même année. En 1619, Jean Sigismond meurt et est succédé par Georges Guillaume. Le règne de ce dernier, qui couvre la majorité de la guerre de 30 ans, sera marqué par une gouvernance inefficace. Calviniste, il tente de rester neutre pendant la guerre, mais les armées impériales pénètrent et pillent le Brandebourg, le forçant, en 1630, à se ranger du côté des Suédois, qui vont également piller le Brandebourg. Georges Guillaume meurt en 1640 et est succédé par son fils Frédéric Guillaume. La guerre de 30 ans prend fin 8 ans plus tard. La guerre fut un véritable cauchemar pour la population du Brandebourg. Près de 50% de la population fut décimée et des villages entiers furent anéantis. Certains des territoires acquis avec la paix de Westphalie, dont la province de Poméranie ultérieure, étaient dans un état semblable de dévastation. La guerre fut également un désastre pour les Hohenzollern sur le plan diplomatique. En effet, selon le traité de Grimnitz de 1529, la succession du trône du duché de Poméranie devait revenir aux Hohenzollern. Toutefois, en 1630, le duc Boguslav IV de Poméranie décide de donner le contrôle du duché à la Suède, ce qui fait en sorte qu'en 1648, le duché sera divisé en deux entre la Suède et le Brandebourg. Le règne de Frédéric Guillaume, qui sera nommé plus tard le Grand Électeur, est marqué par plusieurs développements importants. À partir de 1644, Frédéric Guillaume lance une réforme de son armée, qui était alors composée majoritairement de mercenaires, et il constitue une armée permanente. Au départ, elle avait des effectifs plutôt faibles, mais grâce à l'assistance financière de la France, les effectifs augmentèrent rapidement, ce qui permit aux Brandebourg-Prusses de se tailler quelques territoires lors de la paix de Westphalie, même si pendant la majorité de la guerre de 30 ans, la Prusse fut peu victorieuse sur les champs de bataille. Au cours de son règne, la nouvelle armée passe d'un effectif d'environ 8000 hommes à 30000 hommes en 1688. Il forme également le Commissariat général à la guerre, ou Generalkriegskommissariat, pour mieux gérer l'armée. L'armée brandebourgeoise participe à la Seconde Guerre du Nord de 1654 à 1660, à l'issue de laquelle Frédéric Guillaume obtient le duché de Prusse comme fief, ce qui veut dire que désormais, le duché appartient réellement aux Hohenzollern et ils ne sont plus vassaux de la Pologne. Il établit une importante machine bureaucratique pour mieux diriger l'État et il incorpore au sein de celle-ci les Junkers, la grande noblesse terrienne de l'Est, qui joueront un rôle crucial au sein de l'État et de l'armée. Avec la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, Frédéric Guillaume encourage l'immigration protestante de France dans le Brandebourg. Cette politique sera poursuivie par ses successeurs. À sa mort en 1688, il est succédé par son fils, Frédéric III de Brandebourg. Un grand changement, ou presque, marque le règne de Frédéric III. En effet, en 1700, l'empereur Léopold Ier, en échange du soutien de Frédéric à l'Autriche pour la guerre de succession d'Autriche qui se pointe à l'horizon, élève le Brandebourg-Prusse en un royaume, le royaume de Prusse, et laisse le droit à Frédéric de se couronner roi en Prusse. Roi en Prusse? Vous vous demandez sûrement pourquoi. pourquoi roi en Prusse et non pas roi de Prusse? C'est bien simple. D'abord, dans le Saint-Empire romain germanique, il n'y avait que deux titres royaux permis. Le titre de roi des Romains, qui est détenu par l'empereur, et le titre de roi de Bohême, aussi détenu par l'empereur. Puisque la Prusse, c'est-à-dire l'ancien duché, se trouve en dehors des frontières de l'Empire, Frédéric peut techniquement être roi, mais seulement en Prusse, même si le Brandebourg-Prusse est renommé Royaume de Prusse à partir de 1701, parce qu'il demeure électeur de Brandebourg. OK, c'est pas si simple que ça, en fait. Bon, tout cela pour dire que le 18 janvier 1701, notez cette date, elle est très importante, Frédéric III est couronné roi en Prusse et devient Frédéric Ier. À partir de maintenant, j'utiliserai le terme « Prusse » pour désigner l'ensemble du royaume, qui inclut le Brandebourg, et le terme « Prusse oriental » pour désigner l'ancien duché de Prusse, pour éviter de trop vous mélanger. Au moment où le royaume est proclamé en 1701, la Prusse est encore en train de se rétablir de la guerre de 30 ans. Pauvre en ressources naturelles, le territoire du royaume est également morcelé. Le Brandebourg, qui est véritablement le cœur du royaume, est coupé de la Prusse orientale ainsi que des possessions des Hohenzollern en Rhénanie. À partir de 1702, le royaume entre en guerre aux côtés de l'Autriche dans la guerre de succession d'Espagne. Frédéric Ier meurt en 1713 et le nouveau roi, Frédéric Guillaume Ier, fait entrer la Prusse aux côtés de la Russie dans la Grande Guerre du Nord en 1715 contre la Suède. À l'issue de cette guerre, la Prusse obtient l'entièreté du territoire de la Poméranie suédoise à l'est de la rivière Oder. Ce premier succès du nouveau roi ne sera aucunement le dernier. En effet, celui qui est surnommé le « roi soldat » ou « Soldatenkönig » en allemand, poursuit le développement de l'armée prussienne entamée par son grand-père. Entre 1713 et 1740, l'armée prussienne passe de 38 000 hommes à 80 000, notamment grâce à l'introduction d'un premier système de conscription en 1717. Il continue le développement de la bureaucratie et de la gestion de l'État entamé aussi par ses deux prédécesseurs. Malgré ses succès, il entretient une relation très froide avec son fils, le futur Frédéric II, qu'il souhaitait transformer en un grand soldat. Plus intéressé par les arts, la musique et la culture française, le jeune Frédéric subit fréquemment les châtiments de son père. Il tente de fuir en Angleterre avec un ami proche et possible amoureux, Hans Hermann von Kate, et lorsque les deux sont capturés, le roi ordonne l'exécution de Kate et force le jeune Frédéric à regarder son compagnon être décapité. Sa relation avec son père et son éducation, toutefois, vont grandement influencer le jeune prince. Son arrivée sur le trône en 1740 marque le début d'un règne qui va changer le cours de l'histoire allemande. Quelques mois seulement après son couronnement, Frédéric II envahit la Silésie autrichienne, déclenchant la guerre de succession d'Autriche. Au cours de cette guerre, l'armée prussienne démontra sa puissance et Frédéric II put mettre en pratique les années d'éducation militaire que son père lui inculqua. Les Autrichiens tenteront de reprendre ce territoire stratégique, mais ils échoueront, confirmant la possession de la Silésie par la Prusse dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748. Humilié, l'Autriche forge une alliance avec la France et la Russie, ses deux ennemis de la guerre de succession d'Autriche. L'impératrice Marie-Thérèse lance également une importante réforme de l'armée autrichienne. La Prusse, de son côté, s'allie avec la Grande-Bretagne. En réponse à la formation de l'alliance entre l'Autriche, la France et la Russie, Frédéric II envahit préventivement la Saxe le 29 août 1756, déclenchant alors la guerre de 7 ans en Europe. Au printemps 1757, il décide d'envahir la Bohême et c'est à ce moment-là qu'il commence à rencontrer d'importantes difficultés. En effet, bien qu'il soit victorieux à la bataille de Prague en mai, les pertes sont si considérables qu'il ne peut prendre la ville. Le 18 juin, il subit sa première grande défaite à la bataille de Kolin. Bien qu'il remporte deux importantes victoires contre les Français et les Autrichiens, à la bataille de Hospar, le 5 novembre 1757, la bataille de Leuthen, le 5 décembre. Les pertes qu'il subit au cours de ces deux batailles réduisent l'efficacité de son armée. De plus, Frédéric II se retrouve seul face à une grande coalition de pays ralliés autour de l'Autriche, la Grande-Bretagne étant trop préoccupée en Amérique du Nord. Il se retrouve alors sur la défensive, la Russie progressant rapidement en Prusse. En août 1759, il subit une défaite cuisante à la bataille de Kunersdorf, au cours de laquelle l'armée prussienne est presque entièrement anéantie par l'armée russe. La défaite le pousse au bord du désespoir. Toutefois, un miracle, entre guillemets, se produit. En effet, à cause de nombreux désaccords entre les Russes et les Autrichiens, ainsi qu'à cause des pertes subites lors de la bataille de Kunersdorf, ces derniers ne poursuivent pas l'armée prussienne et ils décident de se retirer. Un deuxième miracle se produit en janvier 1762 avec la mort subite de l'impératrice Élisabeth de Russie. Elle est succédée par son neveu, le prussophile Pierre III, qui signe rapidement la paix avec la Prusse et se retire du conflit. L'écroulement de la coalition autrichienne pousse l'Autriche à la table des négociations, menant au traité d'Übersbourg de 1763 qui rétablit le statu quo ante bellum. Bien que la guerre causa d'énormes pertes économiques et humaines à la Prusse, elle cimenta la place de celle-ci comme puissance européenne. La première partition de la Pologne en 1772 permet à Frédéric de prendre possession de la Prusse royale et donc de finalement connecter le Brandebourg et la Poméranie à la Prusse orientale, en plus d'acquérir un territoire d'une grande valeur. Les réformes de l'administration, de l'économie et de la justice, ainsi que ses politiques en lien avec la culture, l'éducation et l'agriculture, feront la gloire du vieux Fritz et bâtiront les bases de l'État prussien du 19e siècle. Frédéric le Grand s'éteint paisiblement à l'âge de 74 ans dans son fauteuil au palais de Sanssouci à Potsdam, en banlieue de Berlin. La Révolution française de 1789 avait été accueillie avec beaucoup de crainte en Europe. Les idées véhiculées par les révolutionnaires inquiétaient grandement les monarques d'Europe. L'exécution de Louis XVI en 1793 ainsi que la proclamation de la République française, entraînant la formation d'une coalition d'États européens, incluant l'Autriche et la Prusse, pour contrer la France. La guerre de la première coalition débute alors. Les Français tentent d'envahir les Pays-Bas, mais sont rapidement repoussés. Une armée coalisée, sous le commandement du maréchal prussien Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick, envahit la France en juillet 1792. Malgré des victoires initiales, les forces coalisées sont vaincues à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Les Français répliquent aussitôt et lancent des offensives aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne à partir de 1794. La Prusse se retire du conflit en avril 1795, mais l'Autriche continuera à combattre la France jusqu'en octobre 1797, mettant fin à la première coalition. L'Autriche, la Prusse et le reste de l'Allemagne ne le savent pas encore, mais un cataclysme est sur le point de s'abattre sur le Saint-Empire romain germanique, menaçant de mettre fin à plus de 900 ans d'histoire. Alors que la guerre fait rage en Europe de l'Ouest, le compositeur autrichien Joseph Haydn est en tournée à Londres. Là-bas, il entend pour la première fois l'hymne national britannique, God Save the King. À son retour de Londres, il fait part de ses impressions auprès de son ami, le baron Gottfried von Swieten. Il envie les Britanniques et souhaite que l'Autriche se dote d'un hymne national similaire qui pourrait démontrer l'amour et le respect de la patrie à leur souverain. Il dit également qu'un tel hymne pourrait galvaniser l'armée autrichienne qui se bat alors contre les Français. L'idée fut circulée par le baron von Swieten et la cour impériale commande au compositeur un hymne dédié à l'empereur François II. L'hymne est présenté à l'empereur pour la première fois le 12 février 1797 à l'occasion de son anniversaire. À partir du moment où les premières notes sont jouées, la mélodie du Kaiserhymne allait marquer à jamais l'histoire de l'Allemagne. À la lumière de ce long périple à travers les siècles, peut-on définir ce qu'est l'Allemagne? Ça dépend de ce que l'on entend par Allemagne. L'Allemagne telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou bien l'idée d'un État allemand, n'existe tout simplement pas. L'Allemagne n'existe que sur des cartes comme entité géographique. Le Saint-Empire romain germanique, l'entité qui occupe l'Allemagne, est une mosaïque d'États descendant des peuples germaniques qui ont occupé le territoire, mais qui n'ont pratiquement aucun lien qui les unit. Les Allemands n'existent pas non plus. Il n'y a que des Autrichiens, des Bavarois, des Saxons, des Prussiens, des Hambourgeois, des Rhénans, etc. De plus, malgré le fait qu'à la fin du 15e siècle, le Saint-Empire prend le nom de Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ou Saint-Empire romain de la nation allemande, cette nation allemande n'existe pas non plus. Toutefois, à l'aube du 19e siècle, quelques penseurs commencent à réfléchir sur ce que sont les Allemands et surtout, quelle est cette nation allemande. Pour l'instant, la chose est une autre histoire. Une histoire que nous verrons dans le prochain épisode de Par le fer et le sang. Je suis Benjamin Lacombe et je vous dis à la prochaine.